La revue de presse internationale, Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour.
Ce matin, la peur de l'autre.
Oui, c'est l'histoire d'un homme d'origine somalienne et qui vit en Suisse depuis 2011, après plusieurs années avec un permis d'admission provisoire et grâce à son travail à temps plein dans un garage, il a obtenu un permis de séjour. Sa femme et ses trois enfants, eux, sont restés au Kenya, où ils vivent, ou plutôt survivent, dans un camp de réfugiés. L'homme dépose alors une demande de regroupement familial qui lui est refusé au motif que son salaire est insuffisant. Il manque 171 € au revenu minimum exigé par les autorités suisses. Très affecté par cette décision, il tombe en dépression, la qualité de son travail baisse et avec sa motivation en chute libre, il perd son emploi. Pendant ce temps, au Kenya, son enfant cadet décède. Sa femme décide alors de rejoindre son mari par ses propres moyens. Ce cas, suivi par la Croix-Rouge suisse, n'est malheureusement pas le seul, raconte ce matin Le Temps. En Suisse, le regroupement familial des réfugiés, régi par la loi sur l'asile et la loi sur les étrangers, loi que les autorités appliquent de manière mécanique, comprenez, sans considération humanitaire et avec généralement peu de bon sens politique. Car pour les réfugiés, non seulement le regroupement familial fait partie intégrante du droit au respect de la vie familiale, garantie dans la Constitution, mais sans regroupement familial, les réfugiés ont qui plus est peu de chances de reprendre une vie normale et surtout de s'intégrer dans leur société d'accueil. Or, la Suisse n'est évidemment pas un cas isolé. Dans la plupart des États européens, les obstacles à la fois administratifs, pratiques et juridiques au regroupement familial des réfugiés et des personnes admises à titre provisoire sont nombreux. Alors aujourd'hui s'ouvre à Bruxelles un sommet européen au cœur duquel la question notamment des quotas de réfugiés sera de nouveau posée.
Et le débat promet d'être pour le moins agité, Thomas.
Oui, avant-hier, en prévision de ce sommet, donc le président permanent du Conseil européen, Donald Tusk, a présenté un document de travail dans lequel il qualifie les quotas de clivants et d'inefficaces. Aussitôt, Dimitris Avramopoulos, le commissaire aux migrations furieux, a qualifié d'inacceptable la note de Donald Tusk. C'est également l'analyse défendue par l'hebdomadaire grec Prototema, selon lui, en reprenant les idées des forces ultra-conservatrices et quasi d'extrême droite, la proposition de Donald Tusk revient à annuler l'unique décision sur les réfugiés qui, d'une certaine façon, entendait prouver que l'Union européenne était bel et bien une union et non un rassemblement d'États dominé par un conclave néolibéral et nationaliste. Et puis, la déception et l'indignation sont également visibles sous la plume de l'éditorialiste du quotidien grec Avgi. Repéré par Eurotopics, rejeter les quotas de réfugiés, dit-il, reviendrait à saper tout à la fois la solidarité et l'unité européenne. Alors, parfois il arrive que la politique ne se définisse pas seulement comme le monopole de l'autorité, mais bien au sens premier du terme, comme ce qui concerne les citoyens, et surtout que l'action politique, ainsi que le prévoit la démocratie, soit légitimée par le vote des citoyens. C'était tout le sens de l'amendement voté hier à Londres, stipulant que tout accord final conclu avec Bruxelles dans le cadre du Brexit devra être ratifié par un vote du Parlement de Westminster. Jusqu'à présent, une clause du projet de loi accordait au gouvernement le pouvoir de s'exonérer du plein contrôle du Parlement. Le vote d'hier visait donc à ne pas donner en somme de chèque en blanc au gouvernement. Or, l'adoption de cet amendement a été rendue possible notamment grâce aux voix de 11 députés conservateurs rebelles. Quand The Daily Telegraph, classé à droite, parle de mutinerie aux communes, son confrère de centre-gauche, The Guardian, souligne lui l'humiliante rébellion Tory. De fait, ce vote illustre plus que jamais la fragilité de Theresa May, qui depuis son revers aux dernières législatives se retrouve désormais à la merci d'une fronde parlementaire. Un vote qui tombe d'autant plus mal pour la première ministre britannique que s'ouvre aujourd'hui le sommet européen qui doit décider de passer à la deuxième phase des discussions du Brexit.
Et enfin, toujours au menu de ce sommet à Bruxelles, après le dossier migratoire, après le Brexit, Thomas, la question brûlante du statut de Jérusalem devrait également être abordée.
Oui, elle sera notamment scrutée de près en Allemagne où la multiplication ces derniers jours des manifestations contre la décision américaine fait craindre une montée de l'antisémitisme. Drapeau israélien brûlé, slogan xénophobe. Et c'est ainsi que tous les éditorialistes outre-Rhin tirent à présent la sonnette d'alarme. Alors rappelons tout d'abord qu'en Allemagne, le droit de manifester jouit d'une très grande protection. Pourquoi ? Parce qu'avec la dictature nazie, explique l'éditorialiste de la Deutsche Welle, notre pays a appris dans la douleur ce qu'il advient quand un État peut interdire purement et simplement les manifestations de rue. Et c'est ainsi que notre démocratie doit encore et toujours supporter que des slogans par essence antidémocratique soit scandé dans les rues allemandes, ou que des pourfendeurs du gouvernement Merkel aient le droit de manifester, ou que des Palestiniens aient le droit d'exprimer leur colère devant l'ambassade américaine au sujet du transfert prévu de l'ambassade américaine à Jérusalem. Reste, dit-elle, que notre histoire l'histoire ne nous oblige pas à tout accepter. Au contraire, le pays des coupables ne doit jamais détourner le regard. Nulle part et surtout pas dans son propre pays, il n'est possible d'accepter que des drapeaux avec l'étoile de David soient brûlés. L'éditorialiste, toujours de préciser, les individus qui sont venus chercher refuge ici doivent adhérer à cette idée. Car l'Allemagne se découvre en effet aujourd'hui un antisémitisme musulman d'autant plus inquiétant, écrit la correspondante du Temps, que le pays a accueilli à partir de l'automne 2015 plus d'un million de réfugiés, pour la plupart syriens, irakiens et afghans. Or, l'un des jeunes ayant mis le feu au drapeau israélien le week-end dernier serait un jeune syrien de 18 ans. 12 commentaires à lire dans les colonnes de l'hebdomadaire Stern. Il faut faire clairement comprendre à tous les candidats à l'immigration souhaitant s'établir en Europe qu'une tolérance zéro est de mise envers l'antisémitisme. Si nous continuons de relativiser ou de faire valoir que ces agressions ne sont que des réactions exagérées à des événements politiques, alors nous trahissons notre responsabilité pan-européenne et le serment que nous avons prêté en 45. Plus jamais ça. La cohabitation dans une Allemagne comme pays d'immigration n'a d'avenir que si nous n'oublions jamais les leçons de notre histoire spécifique, et ceux qui n'adhèrent pas à cet héritage ne peuvent pas trouver d'avenir ici. Cela n'est pas négociable.